RCF. L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois.
Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est le frère Jacques-Benoît Rauscher, dominicain et sociologue. Il a travaillé sur le discours du pape François relatif à la place de l'étranger et à la migration. Il vient de publier « Les frontières d'un discours, les papes et l'accueil de l'étranger » aux éditions du CERF. Avec lui, vous revenez ce matin sur l'entre-deux-tours des élections législatives.
Oui, Lucie, car si l'Église a toujours fait la distinction entre le temporel et le spirituel, elle propose tout de même des clés de discernement pour voter en conscience. Bonjour, frère Jacques-Benoît Rauscher.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous ce matin. Nous sommes donc, je le disais, en pleine entre-deux-tours. Les partis politiques jouent les alliances. Certains candidats se désistent pour faire front républicain face à l'extrême droite. D'autres recomptent leur voix et espèrent encore accéder à la députation dimanche prochain. Pour les chrétiens, il existe une doctrine sur la vie politique, la vie de la cité. C'est la doctrine sociale de l'Église. Dans quelle mesure peut-elle nous aider à choisir le candidat pour qui voter dimanche prochain ?
Alors elle peut nous aider dans la mesure où elle donne un certain nombre de repères qui permettent d'avancer, de se situer dans cette vie politique. Mais je crois de façon plus fondamentale qu'elle peut nous aider en nous rappelant à tous comme chrétiens qu'on doit être engagé dans cette cité. Et une manière d'être engagé, c'est d'abord de voter. Donc c'est déjà un premier point très important.
C'est aussi ce qu'ont rappelé les évêques qui ont publié une prière. Ils n'ont pas donné explicitement parti. Pourquoi donc les évêques ne prennent pas position ?
Alors, je crois que les évêques sont tout à fait dans leur rôle quand ils ne donnent pas des consignes de vote. Je crois que c'est plutôt heureux parce qu'ils laissent la liberté justement aux chrétiens de choisir. Et je crois que ça, c'est tout à fait quelque chose qui montre que les évêques considèrent que les chrétiens sont des personnes qui sont capables de réfléchir, de discerner. Ils donnent bien des critères, donc ils s'expriment. Ils proposent de prier, évidemment, pour porter ça spirituellement. Mais ils ne disent pas aux chrétiens ce qu'ils doivent faire. Et je crois que c'est tout à fait heureux.
Parce que pourtant, on pourrait s'attendre à ce qu'ils nous disent, bah voilà, il y a tel candidat qui prend pas assez en compte les plus pauvres, tel candidat qui prend pas assez en compte l'étranger, qui prend pas assez en compte le respect de la vie du début à sa fin naturelle, comme dit l'Église. Et pour autant, c'est vrai qu'on attend d'eux peut-être une parole plus forte.
Bah écoutez, je crois qu'on a beaucoup stigmatisé ces dernières années le cléricalisme, et je pense qu'on l'a stigmatisé à raison. Il faudrait pas maintenant essayer de le retrouver en se disant « il faut que les évêques nous disent quoi faire ». Non, je crois que les évêques nous donnent des critères de discernement, dont certains vous les avez rappelés. Évidemment, aucun candidat n'est parfait. Alors maintenant, aux chrétiens de faire eux-mêmes leur travail de discernement.
Vous parliez des critères de discernement. Justement, quels sont-ils ? À la lumière de l'Évangile, peut-être rappeler, on en a parlé déjà un petit peu sur RCF, mais les rappeler ce matin, quels sont un petit peu les grands critères de discernement qui peuvent guider notre choix, en particulier dans cet entre-deux-tours où finalement certains de nos auditeurs considèrent qu'ils n'ont que des mauvais choix.
Alors d'abord, je vais encore un peu enfoncer le clou. Je crois que l'Évangile en tant que tel n'est pas un programme politique prêt à appliquer. Hein, donc il faut pas se dire au fond, je vais trouver dans l'Évangile, je vais trouver dans la pensée de l'Église vraiment la solution que je vais pouvoir appliquer qui va me dire exactement quoi voter. Ça, je crois que c'est capital de l'avoir en tête et c'est pas être mou, être tiède que de le dire. C'est quelque chose qui est consubstantiel, qui est presque lié à l'Évangile lui-même que de pas donner un critère fixe.
Et donc, dès le début, vous nous dites ce matin qu'en fait, il n'y aura pas de candidat qui respectera l'Évangile dimanche prochain. C'est impossible.
Alors, qui respectera l'Évangile, enfin, ça n'en sait rien dans sa vie, mais en tout cas, qu'il n'y a pas de programme politique qui est le décalque de l'Évangile et c'est heureux et le Christ ne le veut pas. Si vous lisez l'Évangile, il ne donne jamais de consigne à qui que ce soit. Donc, c'est aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, c'est la même chose.
Et donc, pour les critères de discernement pour dimanche prochain, revenons-y.
Alors, les critères de discernement, il y a d'abord, je crois, pour le chrétien, le tout premier, c'est la dignité humaine. Dignité humaine, vous l'avez rappelé, origine et fin de la vie. Hein, évidemment, on ne bafoue pas la vie humaine, mais aussi au milieu de la vie. Hein, comment est-ce qu'on respecte celui qui travaille ? Comment est-ce qu'on respecte aussi celui qui est dans une situation de pauvreté ? Et parmi celui qui est dans une situation de pauvreté, peut-être le migrant qui se présente en situation d'urgence, en situation d'extrême pauvreté, hein, sur un canot en Méditerranée ou qui demande l'asile politique. Ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel le chrétien ne peut pas transiger quand le migrant est en situation d'urgence. Après, ça ne veut pas dire qu'il est dans une situation d'accueil tous azimuts de l'étranger. Donc voilà, respect de la dignité. Je crois qu'il y a un deuxième grand critère qu'on pourrait mobiliser, c'est celui du bien commun. Qu'est-ce que je souhaite de bon pour l'État, pour la nation à laquelle j'appartiens ? Et ça, je crois qu'il s'agit d'y penser en ce moment parce qu'on est beaucoup dans une logique qui consiste à dire on va écraser le parti adverse, on va écraser la tendance adverse. Non, le chrétien, il doit se dire comment est-ce que je peux construire quelque chose avec mes concitoyens ? peut-être se demander d'ici le second tour, qu'est-ce que je souhaite de bon aux Français que je croise dans la rue? Ça peut permettre un petit peu de discerner différemment cette...
Concrètement, ça veut dire quoi, quelques exemples?
Eh ben, qu'est-ce que je souhaite de bon? Comment est-ce que je voudrais que la personne que je croise dans la rue, par exemple, puisse croître dans toutes ses capacités, dans toutes ses potentialités? Comment est-ce que je peux, par exemple, faire en sorte que dans les territoires, ça c'est aussi un élément qui me semble très important, on puisse avoir accès à des services publics minimal. Voyez ce genre de choses. Qu'est-ce que je souhaite pour que mes concitoyens aient des conditions de vie les meilleures possibles?
C'est-à-dire que ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il faut avoir une logique positive, ne pas être contre, ne pas s'opposer, mais être plutôt dans une optique. Qu'est-ce que je veux de bon, de bien, de positif pour ceux que je croise?
Exactement. Moi, je crois que le chrétien, dans sa vie personnelle comme dans la vie sociale, il doit d'abord se laisser attirer par le bien. Il ne doit pas d'abord lutter contre le mal. S'il lutte contre le mal, c'est en vue du bien. Alors, ça peut sembler un peu hors sol, mais moi, j'entends tellement de critères négatifs en ce moment, même de chrétiens qui disent il faut faire barrage à l'extrême droite, à l'extrême gauche, au centre, à je sais pas quoi. Non, il faut pas d'abord se dire je vote contre, il faut dire je vote pour quelque chose.
Est-ce que c'est pas un peu naïf? Il y a une réalité politique tout de même.
Alors c'est pas naïf. Je crois qu'au contraire, si on pense que tendre vers le bien c'est naïf, il faut qu'on change de religion. Le Christ nous le rappelle. Il y a quelque chose de cet attrait vers l'idéal de l'Évangile qui nous proclame. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'est pas incarné, qu'on ne cherche pas à lui donner corps dans la réalité qu'on vit. Ça ne veut pas dire non plus qu'on considère que les hommes politiques sont tous purs et parfaits. Hein, mais ça veut dire que nous, on accepte de poser ce regard sur les choses. Hein, je crois qu'il y a une bienveillance qui n'est pas la mollesse du cœur. Et cette bienveillance, le chrétien, s'il l'abandonne, il perd quelque chose de son âme.
Nous sommes avec le frère Jacques-Benoît Rocher, frère dominicain, sociologue. Avec lui, nous nous interrogeons sur la vie politique à la lumière de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Il y a un sujet, on a commencé à l'aborder très rapidement, qui touche beaucoup les Français et qui prend une grande place dans cette élection. C'est le sujet de la migration, un sujet de division en particulier chez les chrétiens entre ceux qui prônent un accueil inconditionnel et ceux qui craignent pour la préservation de leur identité. Le pape François est parfois vertement critiqué pour ses positions pro-migratoires. Pourquoi les catholiques sont-ils si divisés sur ce sujet ?
Alors c'est vrai que c'est un fait que les catholiques sont divisés sur le sujet, je peux vous le dire, moi j'ai donné pas mal de conférences, je vois toujours les auditoires se diviser quand on parle des questions migratoires, mais je crois que parce qu'on est au cœur finalement d'une question qui est complexe là-dedans, c'est de se dire comment est-ce que on donne corps encore une fois aux préceptes de l'Évangile, aux préceptes de la Bible, on peut trouver dans l'Évangile, dans la Bible, des choses assez contradictoires sur cette question de l'accueil de l'étranger.
On a tous en tête Matthieu 25, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Je pense que c'est la première chose qui vient en tête quand on pense à l'accueil de l'étranger dans la Bible. Il y a des choses contradictoires.
C'est la première chose et c'est très important de le garder. Mais dans la Bible, vous avez aussi, dans l'épître de Saint Jean, le fait qu'il ne faut pas accueillir, par exemple, quelqu'un qui pourrait déstabiliser notre foi. Vous avez dans l'Ancien Testament aussi toute une série d'exemples de personnes qui se sont approchées d'étrangers, qui se sont mariées notamment avec des étrangères, c'est le cas du roi Salomon, et qui se sont détournées de Dieu. Et dans la tradition chrétienne, vous avez aussi des tas d'exemples, saint Thomas d'Aquin, par exemple, qui dit il faut pas trop commercer avec les étrangers parce qu'on risquerait de voir que les choses pourraient évoluer dans un sens où la culture ou la religion même d'un peuple pourrait être perdue. Et des saints, des saintes qui disent autre chose. Et je crois que ça, c'est très important, non pas pour se dire que finalement chacun doit choisir peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non, c'est plutôt pour dire l'Évangile, la Bible, la tradition chrétienne, elle ouvre un espace qui nous implique. Elle nous donne encore une fois des critères qui nous permettent de nous appuyer dessus, mais elle ouvre un espace qui nous implique et qui ne nous dicte jamais notre comportement. Donc ne brandissons pas trop vite Matthieu 25, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, mais réfléchissons ensemble entre chrétiens.
Et donc sur ces passages, ce qui est assez, à titre personnel, moi je suis assez étonné parce que vous nous dites ce matin, peut-être les auditeurs le sont aussi sûrement, hein, parce que on a vraiment tous en tête ce passage. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a de la mesure, il y a de la nuance dans l'Évangile. Vous parliez tout à l'heure qu'il n'y a pas de programme politique conforme de A à Z à l'Évangile, parce que ce que nous dit l'Évangile, ce que dit aussi la doctrine sociale de l'Église, c'est plutôt des pistes de réflexion, des axes de discernement, et il n'y a pas de vérité établie.
Voilà, il y a
pas
des éléments
établis dans ce monde.
Dans
je précise.
Voilà, dans ce monde-là, et malgré tout, il y a quand même des critères, j'en rappelais tout à l'heure. Oui. Un étranger qui se présenterait dans une situation d'extrême urgence, hein, encore une fois, sur un canot en Méditerranée ou un réfugié politique, il n'y a pas à transiger. Ça, c'est le respect inconditionnel qu'on doit à la vie. Et là, je crois qu'on applique Matthieu 25 sans réfléchir quelque part parce qu'il y a la vie humaine qui est en danger.
Et on parlait du pape François et de ses positions pro-migratoires tout à l'heure. Certains, justement, pour se s'opposer à l'extrême droite aujourd'hui brandissent les paroles, les actes, les discours du pape François, notamment ce qu'il a pu dire à Marseille en septembre dernier. Est-ce que ça, c'est un discours qui est vrai, qui est juste, qui est ajusté?
Alors, sans doute, puisque c'est le pape qui le prononce, je ne vais pas m'opposer au pape ici, mais je crois que le pape nous rappelle, notamment à Marseille, il le rappelait par rapport à la Méditerranée, qu'il y a des situations absolument dramatiques qui sont vécues par les personnes qui essayent de rejoindre l'Europe. Et là, évidemment, il nous rappelle tout à fait ces situations d'urgence. Peut-être qu'on pourrait souhaiter que le pape François nous donne des critères de discernement un peu plus pratiques. Et c'est un petit peu ce que j'essaye de développer là dans l'ouvrage que je viens de publier. C'est un souhait que l'Église nous donne peut-être des critères un peu plus pratiques. Parce que parfois le discours est beau, il est très idéal. Mais je crois qu'un bon guide de montagne, il n'est pas seulement celui qui nous indique le sommet. C'est aussi celui qui nous dit quel équipement il faut utiliser, quel chemin il faut emprunter pour atteindre ce sommet. Et c'est peut-être cet élément qui nous manque aujourd'hui dans le discours de l'Église sur les migrants.
Autre sujet aussi, critère de discernement pour le week-end prochain, la lumière, la doctrine sociale de l'Église, celui de la propriété, notre rapport à la propriété, une notion assez importante dans la doctrine sociale de l'Église, car il existe une destination universelle et des biens, justement la lumière des plus pauvres et de cette option préférentielle pour les plus pauvres que nous propose la doctrine sociale de l'Église. Quel axe de discernement pour dimanche ?
Alors c'est vrai que c'est une question qui est très ancienne, très compliquée. Les tout premiers chrétiens, j'aime bien le rappeler, disaient que le fait qu'ils soient devenus chrétiens avait changé leur rapport aux biens matériels. Et je trouvais ça toujours très étonnant parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, si je faisais un micro-trottoir à la sortie des églises, je suis pas sûr que les chrétiens me diraient ce qui a changé fondamentalement dans ma vie depuis que je suis chrétien, c'est mon rapport au bien matériel et à ma propriété. Et ben pourtant, par exemple, un saint Ambroise de Milan, grand docteur de l'Église, disait « Quand tu donnes aux pauvres, tu ne lui donnes pas quelque chose qui vient de toi, tu rétablis une injustice. S'il est pauvre, c'est qu'il y a une injustice foncière qui existe dans le monde par rapport au projet de Dieu, donc tu collabores au projet de Dieu » en donnant aux pauvres. Et je crois que là, il y a quelque chose qu'on devrait se rappeler. Nous sommes gestionnaires des biens de ce monde et nous devrions ne pas vivre tranquille s'il y a dans le monde des personnes qui manquent du nécessaire.
C'est ce que disait l'abbé Pierre aussi.
Oui. Tout à fait. Et je crois que c'est valable dans notre société, mais c'est valable à l'échelle du monde. Le pape Jean-Paul II disait « Notre monde est un petit peu comme la parabole du pauvre Lazare et du riche. » Parfois, une partie du monde qui crève, si vous me permettez l'expression, d'être trop riche, et puis une partie du monde qui est à sa porte et qui meurt de faim. Et ça, on peut pas être indifférent à ça quand on est chrétien.
Merci beaucoup, frère Jacques-Benoît Raucher, d'avoir été l'invité de la matinale. Je rappelle donc votre dernier livre dont on a parlé, Les frontières d'un discours, les papes et l'accueil de l'étranger. C'est publié aux éditions du Cerf. Évidemment, vous êtes dominicain, c'est donc aux éditions du Cerf. Et j'invite enfin les auditeurs à aller écouter la série de Halte spirituelle que vous avez réalisée avec Madeleine Vatel, actuellement à l'écoute de RCF cette semaine et qui sont à réécouter aussi sur le site rcf.fr et l'application RCF. Merci beaucoup,
merci.
Frère Jacques-Benoît, et très bonne journée.
Merci.